Voilà. Donc moi je te fais signe
oui.
pour démarrer et partir.
Okay. Bon alors, attention Roland.
Moteur demandé. Annonce.
1990, Christian Defaille pour la RTS filme le tournage.
La rencontre Godard-Delon au sommaire de Cinéma. Image exclusive de cette rencontre, Godard-Delon à plateau fermé au bord du Léman pour le tournage de Nouvelle Vague. Mon retour au romanesque, dit Godard.
Voilà, très bonne. Merci.
Ce jeudi 3 décembre, Jean-Luc Godard a eu 90 ans. C'est un prétexte comme un autre pour faire une petite visite chez cette personnalité incontournable du 7e art. Des films par dizaines, des chefs-d'œuvre, des pépites confidentielles, un langage et une forme à chaque fois unique. Il n'y a qu'un seul Godard, rapide coup d'œil dans cette 12e visite de la saison 4 du Panthéon des Cousus sur Radio Alpa et radioalpa.com.
Tout commence le 3 décembre 1930, jour de naissance de Jean-Luc Godard à Paris, rue Cognac-Jay, près du pont de l'Alma. Son père est médecin, sa mère est la fille d'une famille de banquiers suisses. Trois ans plus tard, la famille Godard déménage en Suisse, près de Rolles, puis dans la ville de Nyon, où Godard commence sa scolarité.
Posons les bases. Extrait du documentaire de Luc Lagier en 2007, Godard, l'amour, la poésie.
Quelques années plus tard, il revient à Paris pour étudier au lycée Buffon, puis à la Sorbonne, où il suit des cours d'ethnologie. Mais Godard privilégie bien vite les salles obscures aux salles d'amphithéâtre. Il fréquente assidûment le ciné-club du Quartier Latin et la Cinémathèque française d'Henri Langlois, rue de Messine. Mais bientôt, découvrir des films à la Cinémathèque ne lui suffit plus, il lui faut dorénavant écrire sur le cinéma. Avril 1951, parution du premier numéro des Cahiers du cinéma, nouvelle revue qui va s'imposer comme l'une des plus influentes de la critique française. C'est dans le numéro 8 que Jean-Luc Godard publie sous pseudonyme son premier article. Mais à cette époque, Godard ne perce pas encore dans le milieu de la critique, ses textes étant jugés obscurs, parfois même incompréhensibles, sa pensée cinéma est encore en construction. Quelques mois plus tard, Godard s'exile une nouvelle fois en Suisse, à Zurich, où il se fait embaucher à la télévision suisse romande, puis comme ouvrier à la construction du barrage de Grand-Dixence, près du lac de Dix. C'est là qu'il réalise son tout premier film, Opération Béton, un court-métrage documentaire sur la construction du barrage. À partir de l'année 56, tout s'accélère. Godard est de retour à Paris et au Cahier du cinéma. La revue a beaucoup évolué depuis son départ. De nouvelles plumes ont fait leur apparition, une nouvelle politique, celle des auteurs, se met en place. Les Cahiers du cinéma font alors l'apologie d'un cinéma plus spontané et plus personnel, où le metteur en scène sera considéré comme l'auteur principal et exclusif d'un film.
Jean-Luc Godard participe de plein pied à cette politique des auteurs. Il publie des textes importants sur Ingmar Bergman ou encore Jean Rouch. Après la critique, la réalisation.
L'année 58 marque le grand tournant. Les deux premiers films de Claude Chabrol, Le Beau Serge et Les Cousins, remportent un important succès en salle. Quelques semaines plus tard, Alain Resnais, avec Hiroshima mon amour, et François Truffaut, avec Les 400 coups, triomphent au Festival de Cannes. Jean-Luc Godard a, quant à lui, pris un léger temps de retard. À la fin de la décennie, il met en scène ses premiers courts-métrages professionnels, Tous les garçons s'appellent Patrick, d'après un scénario d'Éric Romer, Une histoire d'eau, co-réalisé avec François Truffaut, et Charlotte et son Jules, avec un Jean-Paul Belmondo encore débutant.
Musique de Martial Solal.
En plein mois d'août 59, Godard est maintenant prêt à tourner son premier long-métrage, produit par Georges de Beauregard. Un film qui va symboliser, à lui seul, la révolution de la nouvelle vague.
Pourquoi tu veux pas recoucher avec moi?
Parce que je voudrais savoir. Il y a quelque chose chez vous que j'aime, mais je ne sais pas quoi. Je voudrais qu'on serait Roméo et Juliette.
Oh là là, c'est bien des idées de filles, ça.
Tu vois, tu disais hier soir dans la voiture, tu pouvais pas te passer de moi. Tu peux très bien. Roméo pouvait pas se passer de Juliette, mais toi, tu peux.
Non, je ne peux pas me passer de toi.
Oh là là, ça c'est bien les idées des garçons.
Ah non, non, tout le monde croit toujours qu'Abou Tsouf a été encensé, et pas du tout. C'est avec le temps que les gens ont trouvé ça très très bien.
Vous aviez conscience de tourner un film qui allait être très important, qui allait même être historique?
Non, je vais être tout à fait honnête avec vous, mais alors, pas du tout. Je m'amusais beaucoup, pensais que ce film ne sortirait pas. Alors j'étais d'autant plus décontracté. Ah oui. Sincèrement, non pas que je prenais Godard pour un imbécile ou un type qui n'avait pas de talent, mais moi, le peu de cinéma que j'avais fait, il y avait du son, il y avait des... Oui. Donc ça, et la script, il l'avait foutu à la porte, il n'y avait pas de script, il n'y avait pas de son témoin, il n'y avait rien. Je me disais, ce film-là ne sortira pas.
Bon, je compte jusqu'à 8. Si à 8, tu ne m'as pas souri, je t'étrangle. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 et demi, 7, 3 quarts. Tu es tellement lâche que je parie que tu vas sourire.
Vous savez, il y a des gens qui étaient choqués même par le film, hein, qui étaient un peu hargneux. Et vous avez montré Pierrot le Fou aussi, mais Pierrot le Fou a déclenché aussi une sorte de hargne chez les gens. Hein. Vous savez, beaucoup après, on m'a dit pourquoi vous ne tournez pas avec Godard. Mais à l'époque, on me disait pourquoi vous tournez avec Godard. c'est vrai ce que je vous dis. Hein. Quand j'ai fait Pierrot le Fou, beaucoup de producteurs dans le cinéma m'ont dit mais vous êtes fou, pourquoi vous retournez avec ce type.
Tintiberg, Évidence et Belmondo bien plus tard chez Pivot. Retour aux années 60.
Cette période est illuminée par un visage, celui de Véronica, Angela, Nana, Odile, Natacha ou Marianne, c'est-à-dire celui d'Anna Karina.
Je vois que j'avais raison.
Quoi?
Tu ne croyais pas quand je te disais pensez-moi toujours.
Non, jamais je ne t'ai dit que je t'aimerais toujours. Oh mon amour, jamais tu m'as promis de m'adorer toute. Jamais nous n'avons échangé de tels serments, me connaissant, te connaissant. Jamais nous n'aurions pu être à jamais pris par l'amour, nous qui étions si inconstants. Pourtant tout doucement, sans qu'entre nous rien ne soit dit, petit à petit. Les sentiments se sont glissés entre nos corps qui se plaisaient de la se mêler. Et puis des mots d'amour sont venus sur nos lèvres nues, petit à petit. Des tas de mots d'amour se sont mêlés tout doucement à nos baisers, combien de mots d'amour.
Interviewé par le RTF.
D'abord Jean-Luc, est-ce que Pierrot le Fou c'est l'histoire du fait divers? C'est l'histoire
de Pierre Loutrel? Non, absolument pas, non. C'est l'histoire d'un type, il s'appelle même pas Pierrot, il s'appelle Ferdinand du reste, et c'est... Mm-hmm. C'est la fille dont il est amoureuse qui l'appelle Pierrot pour l'énerver. Il lui répète sans arrêt, je m'appelle Ferdinand. Mmh. Et puis elle lui dit, tu es fou. Enfin, c'est un surnom.
Musique d'Antoine Duhamel. Louis Aragon en 65 pour l'ORTF.
Le seul colleur qui invente, à ma connaissance, c'est Godard. Car on n'a jamais fait dans le cinéma, dans le film, de collage à proprement parler. C'est la première fois. Rien ne peut être réduit au collage dans le film tel qu'il existait avant Godard. C'est une idée qui lui est propre. C'est un peu une métaphore d'ailleurs. Par exemple, ce sont souvent des collages de phrases. De phrases empruntées ailleurs, une chose qu'il n'imite pas, mais qu'il prend toute faite, comme Picasso prenait le titre d'un journal et le collait. Eh bien, ça, chez Godard, ça donne une espèce de perspective au film, une perspective sur la réalité extérieure à l'artiste. Voyez bien où je veux en venir. C'est une apologie du réalisme que je suis en train de faire. Que ça plaise ou ça plaise pas à Godard, ça c'est une autre affaire, mais je le tiens pour un réaliste. L'élément de collage, l'élément emprunté dans la réalité environnante et non discuté, non adapté, sans fondu entre la chose faite et la chose prise, donne une perspective de la réalité même d'un monde qui dépasse ce qui est dit.
Cette fois,
C'est le moment d'ouvrir une deuxième parenthèse et de décrire les sentiments des personnages.
Café!
Arthur regarde sans arrêt ses pieds, mais il pense à la bouche d'Odile, à ses baisers romantiques. Odile se demande si les deux garçons ont remarqué ses deux seins qui remuent à chaque pas sous son chandail. Franz pense à tout et à rien. Il ne sait pas si c'est le monde qui est en train de devenir rêve ou le rêve.
La magnifique scène de Bande à part où Anna Karina, Samy Frey et Claude Brasseur dansent dans le bar. Février 2012, Philippe Lefebvre reçoit Anne Wiazemski pour son livre Une année studieuse.
On est juste avant 68, ça raconte une espèce de folie douce entre un garçon et une fille. Donc vous tombez red dingue l'un de l'autre, hein, Godard et vous. Il vous explique dans quel contexte ça se situe et il vous dit ceci: je veux que vous sachiez exactement où j'en suis. Entre nous, par moments, le vouvoiement revenait. Le restaurant où nous avions déjeuné se vidait, une jeune femme balayait entre les tables, le serveur lisait un quotidien derrière le bar. Personne ne nous demandait de partir, on semblait nous avoir oubliés. Jean-Luc en profita pour m'expliquer de façon très claire, avec un minimum de mots, qu'il avait énormément aimé Anna Karina, qu'il avait beaucoup souffert quand elle l'avait quitté, mais que leur histoire était finie depuis longtemps. Il ajouta qu'il avait été épris de Marina Vladi jusqu'au jour où il était venu me voir à Montfrin, en tombant amoureux de moi. Il avait cessé de l'aimer, elle. Avec l'une, il allait tourner Made in USA, avec l'autre, à partir du 8 août, deux ou trois choses que je sais d'elle. C'est donc très simple, je suis seul, sans aucune attache, libre. Et vous ?
Moi, à peine 19 ans, non seulement j'étais...
Lui, il en a 17 de plus. Hein.
Oui, ce qui n'est pas grave, ce qui n'a aucune importance.
On est d'accord. Et
à l'époque, quelqu'un m'avait dit, et je pense toujours ça, les gens que j'aime ont mon âge. Et c'est toujours valable. Et donc, non, j'aimais personne.
Ce Godard que vous rencontrez, alors on le voit bien déjà dans une maîtrise totale de son cinéma, même s'il est colérique sur les plateaux et s'il peut engueuler même de mauvaise foi son équipe. Mais c'est aussi celui que vous nous faites découvrir, qu'on connaît assez peu, parce qu'il y a assez peu de documents. C'est quelqu'un qui est un tout petit enfant. Quand il est dans l'amour ou dans la relation amoureuse, c'est quelqu'un qui a le génie des cadeaux, qui fait des cadeaux. Il vous offre un livre de grammaire chinoise qui date du début du siècle, et à chaque fois, il remet votre nom dans les cadeaux qu'il vous fait. C'est un gauchiste pur et dur. Hein, la chinoise, c'est pas pour rien.
Il est en train de le devenir.
Il est en train de le devenir. Hein, il est en train d'allumer l'Union soviétique pour se rapprocher des Chinois. Et c'est aussi un conformiste. Quand il va demander votre main à votre grand-père, le monument qui est Mauriac, il sait aussi être parfaitement bourgeois dans le comportement.
Mais on n'avait pas le choix. Une fille à cette époque-là est mineure seulement à 21 ans. Et François Mauriac était notre tuteur à mon frère Pierre et à moi. Donc, en gros, pour avoir sa fiancée, il fallait, pour que tout simplement on puisse coucher ensemble tranquillement, comme on le souhaitait, autant qu'on le souhaitait, il fallait en passer par le mariage. Il y a pire, mais bon, on passait par le mariage tout de même.
Et accessoirement, dans ce film où les couleurs primaires sont très présentes, et c'est une des caractéristiques du film, que vous tournez dans l'appartement du 8e arrondissement, qui est votre appartement. Alors, comment fait-on pour passer de la chambre à coucher au plateau de tournage ?
Eh bien, on s'adapte. Moi, j'ai absolument adoré cette vie-là, justement, où fiction, réalité se mélangent. D'ailleurs, je comprends maintenant que c'est exactement ce qu'il a fait avec moi dans La Chinoise. Il a pris le personnage que j'étais dans la vie, l'étudiante à Nanterre. C'était mes vêtements, mes casquettes, mes pulls, même ma bague. Et il l'a transformée en étudiante maoïste, que j'étais pas du tout. Il m'a utilisé pour mon plus grand bonheur, faire un film formidable.
La Chinoise, avec Jean-Pierre Léo.
Tu m'aimes, Kyo ?
Oui, bien sûr, je t'aime.
Parce que moi, j'ai bien réfléchi, je ne t'aime plus.
Allez, qu'est-ce qui se passe, Véronique?
J'aime plus ton visage, j'aime plus tes yeux, j'aime plus ta bouche. J'aime plus la couleur de tes chandails, puis tu m'ennuies, tu peux pas savoir.
Mais Véronique, qu'est-ce qui se passe?
Je ne t'aime plus.
Mais je comprends pas.
Tu vas comprendre.
Véronique!
Tu vas comprendre.
Véronique, explique-moi, qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu me dis ça?
Je ne t'aime plus, Guillaume. Tu m'empêches de travailler. Tu m'angoisses. L'amour avec toi, c'est beaucoup trop compliqué. Puis je déteste la façon dont tu parles des choses sans même les connaître. Je ne t'aime plus. Je ne t'aime plus. Bon, t'as compris maintenant?
Ouais, j'ai compris. Je suis vachement triste.
Oui. 79, sauf qui peut la vie, avec Nathalie Baye, Isabelle Huppert et Jacques Dutronc.
Alors, qu'est-ce que tu veux? J'ai besoin d'argent. Combien? Je sais pas, 2-3 bâtons. Pourquoi faire? Tu rigoles?
Mais ça revenait au même, il n'y aura rien de changé. Tu peux quand même très bien faire ce que t'as décidé, non?
Mais c'est pas à toi de décider si ça revient au même ou pas. Je peux penser, oui. Pourquoi tu veux toujours penser à ma place?
Je fais des films pour occuper mon temps. Si j'avais la force de ne rien faire, je ne ferais rien.
C'est quoi la musique qu'on entendait? Quelle musique? La musique là qu'on entendait.
C'est d'après le journal de 13h. Il y a Yves Mourouzi et Marie-Laure Augry. Il y a aussi Myriam Roussel et Monsieur Météo. Les costumes sont d'un type qui leur en veut à tous. C'est une perle rare de Jean-Luc Godard. La télévision, disait Godard, c'est l'escroquerie majeure de notre époque. Cette rubrique est l'histoire de cette époque.
Jean-Luc Godard qui se trouve derrière la caméra 1, qui regarde ce que fait notre cadreur. Alors vraiment, c'est une des grosses escroqueries de notre époque, Jean-Luc Godard, la télé.
C'est-à-dire, vous recevez pas mal d'argent, redevances, publicité, et à la fin, chaque président de chaîne a un gros problème pour dissimuler tous les bénéfices que ça fait.
Quand vous regardez l'écran de contrôle là, de la caméra, qu'est-ce qu'il y a à faire avec la télévision, avec l'image télévisuelle aujourd'hui?
Ben, je ne sais pas, vous pouvez cadrer un peu Yves, là, plus, enfin, qui est le plan moyen du speaker, voilà, stop, là. Disons, ça, c'est le plan type qu'on appelle plan américain. Eh bien, je crois qu'il y a un point commun entre la Vierge et vous, Yves, c'est que la peinture a toujours cadré la Vierge comme on cadre les speakers aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui annonce les nouvelles.
Alors, si je suis la Vierge, allez-y Joseph,
voilà,
racontez-nous ce qui se passe dans le monde.
Frédéric Bonneau nous rappelait l'une des prestations anti-télé de Godard. Autre colère froide, ici sur le tournage de Détective.
On a rarement vu beaucoup de techniciens investir dans la production, excuse-moi. On a rarement vu beaucoup de techniciens inventer du matériel. C'est pas un ingénieur du son qui a inventé le Nagra. C'est pas toi qui a inventé la Riflex. Tu sais même pas qui a inventé la Riflex et pourquoi. Tu veux que je le dise? C'est Hitler qui a inventé la Riflex. Pour pouvoir suivre les armées rapidement. Voilà pourquoi vous avez une caméra légère.
Mais c'est pas celle-là qu'ils ont.
Non, mais la Riflex est développée à partir de ça.
C'est une histoire.
Eh ben oui, c'est des militaires, mais c'est pas...
Mais je connais l'histoire.
Oui, eh ben je regrette effectivement qu'un caméraman ou qu'un opérateur n'ait pas à un moment inventé comme un chanteur invente une chanson. Et qu'il y a beaucoup de choses comme ça. Donc on peut savoir effectivement quand on se fait insulter par Nana quels sont les risques qu'il prend sur un film. Qui ne veulent pas de risques, il n'en prend pas. Ça m'est égal, mais il n'a pas besoin de faire la gueule non plus. Il y a assez de chômeurs en France.
Johnny Hallyday, polo blanc, veste beige, regarde par la fenêtre Klopobek. Retour sur le Léman avec Delon sur le tournage de Nouvelle Vague en 89.
Soyez mon carréane, je serai votre instrument. Parce que c'est comme ça que j'étais dirigé et que je souhaite être dirigé.
Alors c'est vraiment un carréane?
Ah, c'est un grand directeur d'acteur. C'est avant tout un grand auteur, et c'est plus un écrivain qu'un cinéaste. Il attend toujours le dernier moment pour vous dire ce qu'il souhaite, ce qu'il veut, parce qu'il fait des rayures, il fait des ratures sur son brouillon. Et évidemment, quand on tourne avec une caméra, on ne veut pas faire de brouillon, c'est direct. Il change constamment, il se renouvelle, et il demande à l'acteur d'être totalement caméléon et de se renouveler sans instant. Et c'est ça qui est intéressant, qui est passionnant, c'est tout le moins c'est nouveau. Moi, comme certains autres, nous devons penser avant à ce que nous avons à faire. Nous devons faire un espèce de schéma dans notre tête. Et avec lui, il n'y a pas possibilité de répéter en soi, il n'y a pas possibilité de schéma, puisqu'au dernier moment, il est capable de faire tout à fait machine arrière. Et ça, c'est une chose qui, moi, ne me déstabilise pas, qui est un travail, demande un travail tout à fait particulier, mais qui, par moments, m'irrite parce que j'aime savoir avant, pour penser avant à ce que je vais faire. Et là, je n'ai pas le temps de penser, parce que je n'ai pas le temps de savoir.
Si on veut voler quelque chose en vous, il ne faut pas vous laisser le temps de vous armer. C'est peut-être bon, sa méthode. Est-ce que vous pensez?
Oui, mais il y a quand même des choses. Il y a quand même une base, il y a quand même un dialogue de base, il y a quand même une scène, il y a quand même un personnage, il y a quand même un... Ouais. Quand je dis un soupçon, c'est parce qu'il ne se livre pas, il ne livre jamais son histoire, il ne livre pas son film. Je le soupçonne d'ailleurs de faire son film réellement, un peu comme Clément, c'est-à-dire au montage. Je crois qu'il a tout son film dans sa tête, il a ses personnages, il a son histoire, il a son lien, et je pense personnellement que c'est au montage, une fois qu'il aura tous ses éléments, qu'il fera réellement son film tel qu'il le conçoit et tel qu'il l'a dans sa tête, qu'il l'a dans son esprit, je crois qu'il l'a dans son cœur et dans son ventre.
Quelques mois plus tard, Godard est à Cannes et au micro de Christian Defaille, toujours pour la RTS.
Mais à quoi ça sert Cannes pour vous ?
À se faire reconnaître des siens, parce que on vit dans la marge, et la marge est qui fait que les pages arrivent à tenir ensemble, car s'il n'y avait pas de marge, on ne sait pas ce qu'on écrirait sur les pages, on déborderait. Donc grâce à la marge... Donc on peut aller un peu plus pleine page, c'est-à-dire faire reconnaître la marge, simplement. Mais avec le danger aujourd'hui que ça vous tourne la tête et que ça vous fait paraître plus grand que vous n'êtes ou plus important que vous n'êtes, ce qui n'est pas le cas. C'est le film toujours qui est important, c'est pas la personne.
Il reprend en conférence de presse son plaidoyer de l'auteur.
Quand nous, à la Nouvelle Vague, et Truffaut d'abord, le premier, a défendu la notion d'auteur, c'était simplement pour dire il n'est pas juste que Hitchcock, il n'est pas juste que Howard Hawks, il n'est pas juste, il est plus important, Eisenstein est plus important que l'Amos Film, et Howard Hawks est plus important que la Paramount. Et comment on a dévoyé cette notion d'auteur? Il y a une autre phrase, le chauffeur dit en parlant du personnage joué par Domitiana et par Alain Delon, c'est « il profanait la notion même de personne par le désir d'être une personnalité ». Plus quand vous me photographiez comme ça, moi qui suis un cinéaste, qui vois ce qui se passe, qui vous voit, je vois les forces en échange. Et on se dit « mais il profane ». Alors comment voulez-vous qu'après, si même moi, un gentil vaudois entre Paris et Rolles, on me profane comme ça, comment voulez-vous qu'après... des imbéciles hypnotisés par la télévision n'aillent pas profaner même des tombes. On est dans cette société-là.
C'est ainsi que se termine cette visite du Panthéon des Cousus, rediffusion mardi à 18h35, podcast sur le site de Radio Alpa et le Miss Cloud du Panthéon des Cousus. Mais ne les quittons pas sans musique et sans la chanson de la chinoise. Avant Mourisi, après Belmondo. Bonne semaine à toutes et tous à l'écoute de Radio Alpa.
Merci, Jean-Luc Godard.
Comme ce journal.
Alors,
comment vous terminez un journal? Vous dites quoi?
Je vais dire...
la bourse. Non, mais la phrase que vous allez dire
au
maintenant.
Au revoir et je l'espère à demain.
Bon, alors est-ce qu'on peut se rapprocher d'Yves?
En gros plan.
Mais je la vois pas. Voilà. Bon, c'est ça que vous appelez un gros plan.
Mais je ne sais pas,
non,
je suis pas réalisateur.
C'est comme ça que vous seriez cadré.
L'impérialisme dicte partout sa loi. La révolution n'est pas un dîner. La bomba est un tigre en papier. Les masses sont les véritables héros. Les ricains tuent et moi je mets Mao Mao. Les fous sont rois et moi je bois Mao Mao. Les bombes sonnent et moi je sonne Mao Mao. Les pépés cuits et moi je cuis Mao Mao. Les Russes mangent et moi je danse Mao Mao. Diop dénonce, je renonce Mao Mao.
Et le petit livre rouge qui fait que tout enfin bouge.
La base de l'armée, c'est le soldat. Le vrai pouvoir est au bout du fusil.
Dès qu'une fille dit que tout va très bien et qu'elle n'arrive pas à allumer sa cigarette, eh bien, c'est qu'elle a peur de quelque chose. Je ne sais pas de quoi, mais elle a peur.